Bonsoir mesdames, messieurs. Donc je vais essayer très rapidement de vous présenter quelle a été la dynamique de l'EPSMD Métropole, en sachant donc que j'ai intitulé mon propos « Le comité d'éthique a un outil au service des organisations apprenantes », puisque je pense que chaque fois que l'on est face à une situation éthique, eh bien, à une question éthique, eh bien, on apprend chaque fois, je dirais, des échanges, mais aussi des problématiques que l'on peut rencontrer. Et je pense que chaque questionnement permet de voir à la fois quelles sont nos forces, mais aussi nos limites par rapport à des prises en charge très particulière. Donc en fait, l'idée de mettre en place un comité d'éthique à l'EPSMI Métropole a émergé lors d'un séminaire en 2004 et ce n'est qu'en 2009 que nous avons réussi à le mettre en place pour montrer que la réflexion a été longue et qu'il nous a fallu beaucoup de temps et je remercie en l'occurrence M. Bourri de nous avoir aussi aidé à faire d'une certaine manière accoucher cette idée au niveau de l'EPSMI Métropole. Alors c'était une thématique qui était inscrite dans le projet d'établissement, au niveau du projet médical, au niveau du projet de soins. Et en fait, on souhaitait essentiellement pouvoir permettre, je dirais, l'information, mais aussi la formation des professionnels à travers la mise en place de ce comité d'éthique, mais aussi de pouvoir permettre aussi à chaque équipe d'engager la réflexion sur ce sujet. Alors, on a eu de grands débats, comme vous le disiez, professeur, c'est-à-dire, est-ce que c'est un comité d'éthique médical? Est-ce que c'est un comité d'éthique clinique? Est-ce que c'est un comité d'éthique institutionnel? Finalement, on s'est dit que à la fois les patients, mais aussi les professionnels, mais aussi l'institution au sens large, pouvaient bénéficier aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, eh bien, de cette réflexion et donc de cette thématique. Et donc, nous avons choisi de l'appeler comité d'éthique institutionnel. Alors, sa structuration, donc, comme je vous l'ai dit, elle est effective depuis décembre 2009. Les membres donc, ont été désignés dans les différentes instances, mais on a aussi souhaité qu'ils soient pluridisciplinaires, donc, c'est-à-dire que l'on a décidé d'associer un philosophe, un juriste. Monsieur Etouin est aussi donc fait partie de ce comité d'éthique et est un allié précieux dans toute la réflexion qui est la nôtre. Ensuite, donc, à partir du moment où nous avons donc désigné quels étaient les membres, eh bien, on a travaillé sur le règlement intérieur. Et là aussi, il y a eu de grands débats. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on est saisi d'une question éthique, est-ce que ça doit se terminer par un protocole, puisque c'est, je dirais, aujourd'hui souvent la règle. Et en fait, on s'est dit que chaque cas qui nous était présenté était un cas singulier et que par conséquent, le comité d'éthique pouvait éclairer, pouvait apporter un avis, mais qu'après, la décision devait rester aux équipes qui étaient aux prises avec cette problématique. Ce comité d'éthique a permis aussi, en lien avec donc ce que nous demande la Haute Autorité de Santé, de définir les quatre valeurs de l'établissement, même si en amont, au niveau du service de soins, nous avions appuyé le premier projet de soins sur la définition de valeurs qui permettait de pouvoir poser les fondamentaux et les socles sur lesquels nous pouvions nous appuyer pour pouvoir assurer la meilleure qualité de prise en charge aux patients qui nous étaient confiés, mais aussi à leurs familles, dans un contexte, comme vous l'avez dit, qui est compliqué, qui est la prise en charge de la souffrance psychique et qui, pour chaque situation, eh bien, nous pose un certain nombre de questions. Donc les quatre valeurs, je vais quand même les citer parce qu'elles sont chères à mon directeur, c'est le respect, l'équité, la solidarité et le professionnalisme. Aujourd'hui, je pense que c'est un socle important sur lequel nous nous appuyons et bien dans toutes les questions, dans toutes les réflexions qui nous animent. Alors, la structuration du dispositif s'est faite aussi autour de trois axes. La formation, l'accompagnement, la recherche. Comme je vous le disais, nous en sommes au balbutiement. La recherche viendra dans un second temps, mais les thèmes sont très importants, je dirais nombreux aujourd'hui. On a évoqué effectivement l'expression des libertés et les restrictions, la vulnérabilité, la dépendance, la décision, le consentement, qui n'est parfois pas toujours facile à recueillir, en tout cas dans les premiers moments de prise en charge. Le processus aussi d'élaboration et la place de la personne de confiance. La confidentialité, dans un monde où on partage beaucoup de choses, comment effectivement assurer cette confidentialité dans la prise en charge du patient. L'autonomie, la capacité du patient à, on le voit aujourd'hui avec ce que nous demande la loi HPST par rapport à la mise en place donc, de l'éducation thérapeutique, la fin de vie, le suicide, l'implication des usagers et de leurs familles, les modalités de prise en charge et les pratiques professionnelles et les risques en présence. Ensuite, donc, à partir du moment où on a commencé à initier et à réfléchir sur ces différentes thématiques, on s'est dit, voilà, il faut que les problématiques remontent du terrain. Et donc, on s'est intéressé au concept de la réflexion éthique en contexte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes saisis par une situation, eh bien, comment allons-nous effectivement utiliser différents modes de saisine pour permettre qu'il y ait une réponse effective aux professionnels de terrain. Et donc, nous avons procédé à la désignation, si je puis dire, de correspondants éthiques qui sont des professionnels donc des différentes unités et qui sont nos relais entre ce comité d'éthique et puis finalement les vraies problématiques de terrain, si je puis dire. On a également, donc depuis 5 ans, on va dire, formé nos professionnels à cette thématique et on l'aborde systématiquement pour l'accueil et la formation de nos nouveaux infirmiers qui aussi, je dirais, ont parfois des difficultés à repérer toutes les problématiques qui peuvent se poser dans le cadre de la prise en charge du patient et qui ne comprennent pas toujours pourquoi, effectivement, on n'arrive pas à recueillir un consentement éclairé. On a également formé donc des groupes à la démarche éthique. Et puis, ensuite, donc avec ces correspondants éthiques et avec le comité, on a essayé d'identifier un certain nombre de thématiques. La liberté d'aller et venir, la gestion des restrictions. On a mené une enquête auprès des usagers pour avoir leur perception de la liberté d'aller et venir. Et cette enquête et les retours, l'analyse de cette enquête a permis de pouvoir aussi identifier quels étaient les axes sur lesquels nous devions travailler pour pouvoir améliorer en tout cas cette privation de liberté qui peut s'opérer dans certaines prises en charge. L'isolement, la contention, la promotion de la bientraitance, la prévention de la maltraitance. La réflexion aussi sur la prise en charge des patients au long cours qui aujourd'hui sont parfois une difficulté parce qu'ils présentent encore des troubles du comportement persistants et qu'ils ne trouvent pas ni de place en EHPAD, ni de place en maison d'accueil spécialisée et pour lesquels, eh bien, parfois, nos structures ne sont pas toujours non plus adaptées. La réflexion sur la prise en charge du sujet âgé aussi. Et donc, dans ce cadre, nous avons aussi choisi de pouvoir répondre à des appels à projets pour pouvoir former les professionnels qui prennent en charge nos patients en EHPAD et pouvoir faire en sorte que l'on ne les prive pas, si je puis dire, de leur repère quand il y a un problème. L'accueil des plus démunis, c'est aussi, je pense, une thématique qui est en tout cas une problématique, un questionnement qui va de plus en plus nous animer. Chaque année, nous sommes amenés à accueillir des personnes sans domicile fixe pendant cette période hivernale. Et là aussi, on se rend compte que l'accès aux soins pour ces personnes n'est pas toujours aisé et qu'il faut déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir respecter l'être humain par rapport à ses choix de vie, mais aussi par rapport à ses conditions. Quand nous avons donc fini d'identifier toutes ces thématiques et tout le travail qu'il nous reste à faire pour pouvoir les aborder, nous avons également choisi d'adresser un questionnaire à l'ensemble des professionnels afin d'identifier les attentes et les besoins de tout à chacun. Et donc, voilà, nous sommes dans une dynamique qui est en chemin, j'aurais envie de dire, et où les idées de tout à chacun eh bien, sont importantes. J'évoquais dans le début de mon propos donc l'idée de l'organisation apprenante, c'est un modèle de management qui permet de valoriser la dynamique collective, car je pense que c'est bien dans la dynamique collective et dans les partages et les échanges d'idées que nous pouvons parfois apporter des solutions face à des situations qui sont si complexes pour nous à prendre en charge. J'ai aussi, réfléchi par rapport à cette définition que donne Peter Senge, qui a beaucoup travaillé sur les organisations et apprenantes, et qui dit que ce sont celles dont les membres peuvent sans cesse développer leur capacité à atteindre les résultats qu'ils recherchent, où de nouveaux modes de pensée sont mis au point, où les aspirations collectives ne sont pas freinées, où les gens apprennent en permanence comment apprendre ensemble. Je terminerai mon propos en disant que, effectivement, en tant que soignant, je pense que c'est bien la relation singulière avec l'être humain en souffrance psychique qui est à l'origine de nos questionnements, qui est aussi à l'origine de nos apprentissages en permanence tout au long de notre carrière et tout au long, je dirais, de notre vie. Et donc, au niveau de l'EPSM et Métropole, on tente de s'appuyer sur cette dynamique.
Merci. Bon, merci Madame Bourgeois, parce que vous avez vraiment respecté à la fois le cadre qu'on s'était donné et le temps. Juste une petite question, vous situez la construction et l'évolution du comité d'éthique de l'Armentière comme une organisation apprenante, ou vers une organisation apprenante. Est-ce que vous auriez, très très brièvement, un thème sur lequel vous avez l'impression que le comité et ses divers membres ont eu l'occasion effectivement d'apprendre lors de ces débats un petit quelque chose de nouveau? Quelle est la question autour de laquelle j'ai l'impression que le comité, dans son ensemble, a progressé?
Alors, je pense que s'il y a une question sur laquelle on a progressé, c'est celle de la liberté d'aller et venir et de la contention à travers le questionnaire qui avait été adressé aux usagers et pour lesquels, là encore, je remercie M. Etoin qui avait accepté de tester le questionnaire et où, là encore, ça a été vraiment une rencontre humaine exceptionnelle de pouvoir voir que finalement, en tant que soignants, nous avions une représentation de la liberté d'aller et venir qui n'était peut-être pas forcément celle des patients et que d'avoir leur avis était vraiment une valeur ajoutée parce que eh bien parfois on a effectivement l'impression que la porte ouverte est ce qu'attendent les patients alors que c'est pas forcément ça qu'ils attendent pour pouvoir être protégés et c'est intéressant d'avoir ce retour et de se dire que finalement là encore il est important d'entendre et d'écouter le patient quand il arrive pour pouvoir essayer de pouvoir lui proposer la meilleure prise en charge dans les meilleures conditions en fonction de ce qu'il attend et pas forcément avec une porte ouverte. Et ça, je pense que c'est très important et ça a été, je dirais, un des apprentissages de ce questionnaire.